des philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, de retourner.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour Gabriel.
Bonjour Morgane.
On a décidé aujourd'hui de partager avec vous une réflexion que l'on a entamée sur la relation entre la démocratie et le numérique. Moi, ce terme de numérique me pose problème dans sa définition. D'abord, il signifie ce qui est relatif au nombre. Numériser, c'est donc encoder en système binaire 0 et 1. C'est réduire le signe en impulsion électrique. Numériser, c'est réduire au statut de données quantifiables. Mais on sait bien que quand on quantifie, quand on essaye de réduire, forcément, on perd de l'ambivalence du signe. En le réduisant au système binaire, peut-être qu'on passe à côté une difficulté, une augmentation, où on passe à côté de ce que pourrait être véritablement le signe dans toute son étendue. Pourtant, quand on parle du numérique, on ne fait pas référence à du simple. On fait plutôt référence à un système complexe, technologique, qui concerne le domaine de l'information et de la communication. On peut noter donc que seule la langue française utilise ce terme. Or, peut-être que c'est le terme qui est mal choisi. Peut-être qu'on ne devrait pas parler de numérique, on devrait parler de digital, comme le font les autres langues, pour parler de cette technologie. Qu'est-ce que c'est que ces objets numériques ? Est-ce que ce sont des objets qui réduisent l'information à un système binaire ? Est-ce que ce sont des objets qui nous obéissent au doigt et à l'œil, comme le voudrait le terme de digital, qui renvoie au doigt ? Mais surtout, la véritable question, est-ce que ce numérique et ce monde numérique qui s'ouvre à nous est un véritable progrès pour nos démocraties ? En tant que technologie de l'information et de la communication, mais aussi avec toutes les questions qu'il pose autour du big data, de la numérisation des données personnelles et la question du lien avec les multinationales aussi qui sont autour de cette question du numérique. Qu'est-ce que t'en penses, Gabriel ?
Oui, effectivement. Moi, j'ai envie de restreindre pour le moment le numérique à Internet parce qu'il me semble que c'est vraiment à partir d'Internet et même plus précisément du World Wide Web, c'est-à-dire vraiment de la toile en 93 avec un protocole commun, l'HTTP, c'est-à-dire vraiment comme une sorte d'alphabet commun et accessible à tous. Donc voilà. Et là, c'est intéressant quand même de retourner aux origines et à l'enthousiasme premier des pionniers donc du web, enfin d'Internet, mais plus précisément du web, parce que au tout début, ça n'a été finalement qu'une parenthèse d'une dizaine d'années. Là, je me réfère beaucoup à l'auteur Éric Sadin, qui a écrit La silicolonisation du monde, mais aussi L'humanité augmentée, mais aussi La vie algorithmique. Bref, il parle des années 90 jusqu'à 2000, comme d'une parenthèse enchantée. C'était l'âge de l'accès, où vraiment on pensait à une démocratisation facilité par le web, par l'internet, puisque tout un chacun pouvait accéder à des savoirs. Enfin, je pense par exemple, moi je me souviens, avant, fallait courir les bibliothèques pour se documenter. C'était beaucoup de perte de temps, mais bon, on faisait avec. Et c'est vrai que maintenant, de chez soi, on a accès à des catalogues de bibliothèques et à beaucoup de documents intéressants. Voilà. Mais cet âge de l'accès, enfin, l'accès, c'est toujours là. Mais ce que dit Sadin, c'est que cet idéal, cette richesse, elle masque peut-être une perte de démocratie. Donc c'est pour ça que je tenais à revenir sur cette parenthèse, parce qu'il faut pas, il faut peut-être éviter d'avoir toujours cette même représentation. En tout cas, cette parenthèse, elle semble s'être refermée avec la mainmise des grands groupes du numérique. Ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Mais certains pensent que on peut et même on doit rouvrir cette parenthèse. Et donc pour ça, mieux connaître peut-être l'esprit originaire, hein, des pionniers du numérique.
En fait, c'est étonnant ce que tu nous dis là, parce que moi, j'ai toujours entendu que Internet, ça venait des militaires. Hein, c'était au départ quelque chose qui a été fait par l'armée. Et du coup, que tu ramènes Internet à un courant libertaire, ouais. C'est assez original.
C'est vrai. J'ai été la première surprise, en fait, quand j'ai mis mon nez là-dedans, parce que moi, comme beaucoup, je me disais, bon, voilà, on le sait, hein, l'informatique a pris naissance pour l'effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, et après, on dresse un droit fil vers aujourd'hui et une espèce de menace de surveillance globalisée.
Ouais.
Mais donc, quand je me suis renseignée là-dessus, j'ai découvert que, en fait, ce que Sadin appelle l'esprit de la Silicon Valley, l'esprit siliconien, c'est bizarre, parce que c'est le croisement d'infrastructures militaires, oui, de réseaux, mais qui étaient aussi des universités, hein, et des structures strictement militaires, le croisement de ces infrastructures, donc un fait, avec un état d'esprit. Donc ça, c'était les années 50, Seconde Guerre mondiale 50, et après les années 60, l'esprit hippie, l'esprit libertaire, qui s'est emparé de ça et qui a cru, sincèrement, que le numérique et après l'informatique personnelle pouvaient contribuer à leur rêve d'émancipation individuelle. Mmh. C'est vraiment étrange.
Oui, on est vraiment au cœur du problème, hein, que l'on pose entre, justement, savoir si c'est une libération du savoir, une libération de la communication et de l'information, ou bien au contraire, si c'est un enfermement, une sécurisation, une surveillance de ce que l'on pourrait chercher.
Oui, tout à fait. Alors bon, on trouve encore aujourd'hui, là par exemple Alexandre Lacroix dans « Ce qui nous relie », il dit donc le web, hein, a été conçu comme un service public mondial gratuit, décentralisé et non étatique, censé encourager une immense conversation démocratique. Donc il y avait ce rêve, hein, de l'espace public globalisé, d'une sorte d'agora mondiale. Et ça poursuivait, ça prolongeait le rêve hippie, hein, aspirant à une harmonie universelle. Hein. Donc il s'est totalement enthousiasmé pour la libre circulation horizontale de l'information et l'idée de pouvoir défaire la hiérarchisation pyramidale des sociétés. Et donc le net, hein, permet peut-être encore, mais c'est ça la question, hein, permettait un accès égalitaire, hein, aux informations, aux savoirs, aux diffusions. Donc ça mettait tout le monde sur un pied d'égalité, hein, je veux dire tout un chacun, avec les problèmes que ça peut poser aussi, mais tout un chacun pouvait publier et s'exprimer. Alors là, je trouve que c'est intéressant, cette petite citation, c'est Benjamin Bayard, qui est un militant pour les libertés fondamentales dans la société de l'information. Il dit « L'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire. » Malheureusement, j'ai pas la date, il parle au futur. Voilà. Donc, je ne sais pas, ce qui semblait être un accroissement de la liberté d'expression, mais quand même un petit mot, la fracture numérique, il faut quand même juste dire que oui, ça existe, c'est toujours là.
Et l'accès est maintenant payant, en tout cas, hein, on n'est plus dans...
Pour beaucoup de savoirs, oui, de services. Alors... pour continuer, donc, quand Internet suscitait l'espoir et quand il en suscite encore, donc, cette liberté d'expression qui semblait ne plus connaître de limites. Et ensuite, il y a aussi, ce qu'on voit quand même encore aujourd'hui, la faculté donnée par le net de pouvoir mobiliser, hein, de pouvoir rendre les luttes peut-être plus efficaces, les résistances, hein, avec des pétitions en ligne, avec donc des appels à se mobiliser qui se répandent rapidement. Hein,
Oui, hashtag MeToo par exemple.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Et oui, et même au début, Occupy Wall Street, l'étincelle de départ, c'était Internet. On peut aussi penser aux dissidents des printemps arabes. Bon, donc ça, et puis aussi, le dernier point, c'est quand même que Internet permet la mise à jour des affaires d'État, hein, des secrets d'État, des manquements de l'État aux droits de l'homme, mais aussi des manquements aux droits de l'homme des multinationales, le travail des enfants, enfin bon, etc. Et donc les images aussi circulent vite. Par exemple, les images de Guantanamo, elles ont fait le tour de la planète, du web, et donc le gouvernement américain a été tout de même obligé de s'en expliquer. Et c'est quand même assez intéressant, voilà, donc il y a des lanceurs d'alerte, hein. On pense à Assange et Wikileaks, hein, toutes les affaires d'évasion fiscale, de corruption, bon, il y a beaucoup d'exemples, hein, je vais pas, mais voilà, collateral murder, hein, quand... très tard, hein, on a su que des militaires américains avaient tué des journalistes de l'agence Reuters en confondant les caméras et les lance-roquettes. Donc Wikileaks a permis de mettre cette information au service de tout le monde.
Oui, tous les problèmes d'écoute aussi qui ont été révélés par Edward Snowden, qui lui en plus a l'intérêt de faire partie de la machine, hein, puisque c'était un informaticien, ingénieur, etc. Et finalement, il a lui-même dénoncé peut-être ce que pouvait être aussi le mauvais aspect de la sécurisation ou de la...
Qui est
de regarder les données, quoi.
Qui est une menace de plus en plus présente. Mais à ce propos, bon, Eric Sadin et d'autres, hein, comme Ganassia, que tu connais bien, Morgane, enfin pas personnellement, je veux dire,
oui, que j'ai aimé,
voilà, disent que mais ce réel problème, hein, de la collecte des données et de la surveillance globalisée, c'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que il y a d'abord, bon, mais non, ça c'est pas caché, hein. On sait que les GAFAM petit à petit grignotent la souveraineté de l'État. Enfin, c'est pas caché, mais ce qui est beaucoup plus insidieux et qui peut-être ronge la démocratie de façon imperceptible, et c'est pour ça que c'est peut-être d'autant plus dangereux, c'est que petit à petit, l'assistance donnée par tous les objets connectés, tous les objets intelligents, petit à petit, elle nous dessaisit de nos facultés de décision et même de sensibilité.
Oui, tout à fait. Tu penses à quoi? Au GPS, par exemple?
Oui, voilà, quand on sait, et puis c'est toujours tellement séduisant, c'est vrai, on reconnaît tous que c'est très bien, on se perd plus, c'est plus efficace.
Oui.
C'est...
On a l'impression qu'on y gagne en confort, mais finalement, il y a peut-être d'autres réflexions à mener sur l'utilisation de ces outils qui sont censés nous faciliter la vie, c'est ça que tu veux dire?
Ouais. Je crois qu'à chaque fois, il faut se demander si vraiment on en a besoin, donc oui, peut-être, pourquoi pas le GPS en voiture, etc. Mais c'est un exemple quand même qui est pas mal pour montrer que quand on l'a plus ou quand ça marche pas, on est vraiment perdu. Mais peut-être que, voilà, donc maintenant, il y a des... Toutes les surfaces, tous les objets peuvent être dotés de puces, donc ce qu'on appelle les objets intelligents, les objets connectés, l'Internet des objets. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un biberon connecté? Est-ce que la maman, après, elle ne saura même plus comment, si elle oriente bien son biberon, s'il y a une panne? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lits avec des puces dedans? Des puces, des lits intelligents, voilà, qui font que même quand on dort, on ne lâche pas l'affaire, puisqu'on sait le matin, nos phases de sommeil, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de tel tranquillisant, d'aller consulter tel sophrologue, parce que voilà, c'est ça aussi, c'est que, évidemment que c'est pas philanthropique. Toutes ces aides, tous ces assistants
Bien sûr, oui, les grands groupes font croire que c'est pour le bien de l'humanité. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est à des fins de profit. Et que tous ces objets connectés, après, ils sont en mesure de nous suggérer des achats.
Eh oui, ça nous dirige vers des objets de consommation. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que ça peut diriger des assurances ou ça peut diriger des systèmes plus en lien avec la santé, par exemple, d'arrêter de nous assurer parce qu'on est en surpoids ou qu'on ne fait pas suffisamment de sport, ce qui est rentré dans nos montres ou téléphones connectés maintenant.
Oui. Donc les assureurs et puis aussi pour avoir un logement, par exemple, si quelqu'un a accès à notre solde bancaire, enfin bon, on peut ne pas trouver de logement, on peut... Parce que voilà, il faut bien être conscient qu'à chaque fois donc, qu'on dispose d'objets connectés, on livre des données personnelles. Ce que Sadin dit, lui, il faut absolument, parce que c'est un philosophe qui a réfléchi sur l'informatique, mais il a parfois comme ça des conseils, enfin, ou peut-être même des mots d'ordre très 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 pragmatiques. Il dit par exemple qu'il faut absolument refuser le compteur connecté, parce que le compteur connecté donc donnera toutes les données qui ont trait aux objets connectés dans la maison. Donc centralisera les données.
Tu parles du compteur électrique ?
Non, oui, mais il n'est pas encore... non, c'est pas ce qui a déclenché tant de fameuses... Non, non. Non, c'est ce qui permettra, disons, de centraliser l'assistant vocal, votre télévision connectée, qui donc livrera les données sur les programmes que vous aimez, que vous voyez. Et, je ne sais pas, le pèse-personne connecté, qui livrera l'état de votre santé. Voilà, donc là, c'est vraiment livrer toutes les données, comme ça, faut peut-être un petit peu être prudent à ce propos-là. Et bon, il y a quand même des choses à faire parce que en fait, les grandes multinationales, ce qu'elles disent, c'est assez bizarre cette histoire, hein, ce que Ganassia appelle les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que ceux-là même qui sont partie prenante et qui visent à commercialiser les objets connectés, eux-mêmes préviennent des menaces potentielles. Mais en fait, c'est un peu une charité empoisonnée parce que leur remède, c'est d'augmenter nous-mêmes nos puissances par de nouveaux objets connectés. Et voilà, c'est toujours un plus de technique et un plus de profit pour eux finalement. Hein. Voilà, donc c'est dommage, je vois autour de moi beaucoup de, même bon, des élèves qui disent que c'est inéluctable, qu'on n'y peut rien, et puisque c'est comme ça, autant continuer donc à investir dans le numérique pour remédier donc à ce qui pourrait être dommageable dans ce domaine.
Est-ce que c'est une source de progrès du coup ou pas, Gabriel ? Ouais. Qu'en penses-tu ?
Bah, y aurait mon avis personnel et puis ce qui serait peut-être général. Non, je pense que ça pourrait être un formidable outil. Alors, je veux pas tomber dans tout dépend de l'usage qu'on en fait. Non, tout dépend de ce que on va obliger les décideurs à en faire. Si toutefois on peut les obliger, parce que là, c'est évident qu'on part vers quand même une démocratie en recul, hein, une souveraineté populaire qui petit à petit se vide de sa substance. Mais bon, il est toujours permis d'espérer, comme dirait peut-être Kant, que les citoyens vont prendre conscience, vont se réveiller et vont s'emparer de toutes ces techniques, vont même tenter d'ouvrir un peu la boîte noire. Alors moi, certainement pas, mais ceux qui connaissent mieux l'informatique. Donc en fait, il est de la responsabilité des ingénieurs déjà. Ah oui, oui, il y a déjà quelques ingénieurs qui se sont montés en collectif et leur manifeste est en ligne d'ailleurs pour dire que la formation des ingénieurs doit vraiment... doit les inciter à se responsabiliser. Hein, il y a des choses sur lesquelles c'est peut-être pas la peine de faire des recherches. Bon, alors je passe sur le problème des financements de la recherche. Mais bon, il y a des choses à faire du côté de la responsabilisation des ingénieurs et de leur formation. Voilà. parce que...
Bon, bah écoutez, voilà quelques pistes de réflexion hein, pour amorcer ce lien entre démocratie et numérique. Nous nous retrouverons sans doute pour continuer à développer ces questions-là, oui, notamment autour de l'intelligence artificielle. Merci Gabrielle.
Merci Morgane.
Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Mais c'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça. C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophes Publics.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.